gonna fall hard for.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel.
Oui, dont tu as rêvé, petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher.
On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine est féministe.
On ne naît pas hétérosexuel. On le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Transpédéguine.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rêve de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux. Une émission transpédéguine et féministe. Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitée, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal, capitaliste, raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission Transpédéguine.
Ah, surtout Transpédéguine.
Chère Sainte Gwynas et chère Sainte Tapiole, je vous écris pour les vœux de la nouvelle année, car pour cette année 2014, je souhaiterais que les hétéros disparaissent et avec eux toutes leurs valeurs réactionnaires et nauséabondes. Pchit, envoler l'hétéronormalité. Et si c'est pas possible, alors je souhaite que vous me donniez plusieurs armes automatiques et des cartouches en grand nombre et aussi des grenades et puis quelques bombes et je m'en charge moi-même.
Bonjour.
Salut.
Bonne année.
Ça va? Bien arrivé dans les studios avec autant de neige.
Ouais, ça va. Fou, c'était dur de descendre de la montagne. Hein.
Et voilà, on est rentré dans une nouvelle année. Alors pour cette première émission de l'année 2014, on avait besoin de rêver un peu et d'imaginer des possibles. Donc nos bonnes résolutions pour 2014, mais au-delà, nos souhaits et nos espoirs. Donc imaginer, s'imaginer, bah c'est aussi se projeter et devenir des parcours singuliers, mais aussi des imaginaires collectifs. Mais comment se créent-ils ces imaginaires collectifs? Comment va-t-on continuer la lutte? Et comment a-t-on envie de vivre? Qu'est-ce qu'on veut au juste? Et comment on imagine nos futurs? Voilà plutôt des chouettes questions à se poser. Le monde capitaliste nous projette dans la consommation, bah, le travail, le couple et la famille, un modèle normatif que l'on refuse. Mais comment arrive-t-on, entre tordus, à créer d'autres désirs plus fous, plus forts, qui nous entraînent dans des perspectives collectives, plus loin que les sentiers battus, où l'on invente ensemble d'autres repères?
Chère Sainte Gwynas et chère Sainte Tapiole, pour cette année 2014, je souhaiterais que les frontières brûlent et que tout le monde soit libre de circuler. Alors au revoir visa, passeport, carte de séjour, puce biométrique et centre de rétention. Ne dit-on pas beau comme un centre de rétention qui brûle ?
Chère Sainte Gwynas et chère Sainte Tapiole, pour cette nouvelle année 2014, je voudrais que les riches s'étouffent avec leurs billets verts, que les distributeurs automatiques distribuent gratuitement de l'argent, et puis aussi que les grands de ce monde prennent une fusée et débarrassent le plancher et qu'ils arrêtent de nous pourrir la vie en orbite.
Alors, on va bientôt, dans la minute qui suit finalement, on va écouter un extrait de La vie rêvée de Sainte Tapiole, qui est un livre écrit par Hervé Bazin. Et du coup, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'est La vie rêvée de Sainte Tapiole. Du coup, enfin un roman pour les folles, les tapioles révolutionnaires et délurées et autres anormaux et anormales qui ne se retrouvent pas dans la masse de bouquins traitant de l'hétéro ou de l'homosexualité. Dans La vie rêvée de Sainte Tapiole, on suit les périples d'une jeune tante qui a un faible pour les garçons aux jambes arquées depuis sa naissance jusqu'à ses 20 ans, depuis ses premières expériences de PD aux États-Unis jusqu'à ses actions terroristes de pédale enragée à Paris, qui sont d'ailleurs un vrai régal. On vit avec elle ses névroses délirantes, ses peurs, ses questionnements, ses amours et ses histoires de cul. Le tout enrobé dans une conscientisation politique qui fait plaisir à lire.
Et je voulais remercier la merveilleuse Tapette qui nous a lu cet extrait et aussi que la musique qu'on entend derrière, c'est René Aubry.
Tous les jours un peu plus, je découvre le bonheur d'être pédé. Si la réincarnation existe, faites que je revienne en folle perdue. Déjà adolescent, malgré les doutes, la peur de me sentir exclu, différent, je pressentais que j'allais adorer cet état. Si, plus jeune, le sentiment d'être en dehors des normes partout représentées m'avait effrayé, je voyais bien aussi que ce qui animait les garçons et filles hétéros de mon âge me paraissait stupide et contre nature. Rivalité machiste, peur niaise feinte des filles, souci de mettre en avant une virilité à peine naissante, discours faux et imprégné de séries télévisées pour adolescents, toute une série de codes imposés. Comme dans la chanson pour enfants, « Les beaux messieurs font comme ci, les belles dames font comme ça. » Oui, le bonheur d'être pédé, d'avoir le sentiment que toute une gamme de lois ne vous concerne pas. Aimer les garçons aux jambes arquées, les t-shirts jetés en boule pendant l'amour, l'odeur de la sueur qui mouille les draps, un pied cambré aux orteils larges, la tension des muscles qui dessinent une cuisse, les arrière-salles obscures de bars où se rendent les mecs pour s'envoyer en l'air sans se voir après une séance de cinéma avec leurs meilleures copines. Les allées de parc où le désir vous tenaille, ce sexe toujours disponible, toujours en éveil, ces rencontres de l'autre ou l'achat à crédit d'une cuisine intégrée n'est pas forcément l'épilogue. Ce regard décalé sur les choses et les gens, parce que plus attentif aux désirs et aux haines. Ce banquier qui craque sur l'apprenti maçon. Et cette folle coiffeuse qui, par amour, va s'intéresser au tractopelle de son amant. Ce mélange des genres et des lieux, ces portes cochères où l'on se croise, et ces dessous d'escalier qui se transforment en chambre nuptiale. Cette folle serveuse de restaurant, qui tout en vous prenant la commande, va demander à votre mère le nom de son parfum. Ces appartements décorés comme des bonbonnières de foire, ce goût du mélange, cette passion de l'iconoclaste. Ces amours qui vivent sans prétexte d'enfants à élever, sans prétexte de convenance ou de belles familles à préserver. Ce petit banlieusard aux yeux de biche, qui préfère Visconti au rap. Cet agriculteur, qui se met du gel dans les cheveux avant de monter sur son tracteur. Le bonheur. Oui, le bonheur de n'être jamais vraiment à sa place. Le petit détail qui fait que l'on n'est jamais aussi conforme que le voudraient les autres. Oui, j'aime les tantes, parce qu'elles sont gentilles avec les vieilles dames et séduisent toujours la maman de leurs petits copains. Médecins le jour, elles se font pisser dessus dès le soir. Tourneur-fraiseur de 8h à 17h, elle se métamorphose en enculeur cuir le soir venu. Folle capable de payer très cher un mauvais repas uniquement parce que le serveur, désagréable et hétérosexuel, ressemble à Brad Pitt. Folle qui conseille leur copine de bureau sur la couleur de leur mascara et qui, entre deux séances de pipe au fond du backroom, font salon pour parler du dernier opéra créé. Folle mauvaise, mais jamais sans humour. Folle au-delà des cultures et des rôles voulus pour elle. Les seules capables d'aller à la plage par 30 degrés en chaussettes de laine blanche et brodequins de haute montagne parce que c'est la mode et de trouver cela absolument normal. folle qui n'aime pas les enfants et ose le dire, qui aime la corrida pour les couilles moulées du torero, et qui, comme les petits bourgeois, ont peur du gitan, mais qui craque sur son look de voyou dangereux. Folles épilées et parfumées qui meurent d'amour pour l'avant-bras poilu du livreur de pizza, qui se marient tous les 4 jours et sont fidèles 40 minutes. Folles de tout et de son contraire, folitude qui mélange les races, les genres et qui détourne règles sociales et devoirs. Folles à tanga ou body collant, à crâne rasé ou mèche décolorée, au corps d'éphèbe ou de rond de cuir, les bodybuildées qui poussent un cri suraigu quand elles font tomber leur sac de sport, les costumes écrasés. Folles chic ou prolo, unies par la même huile corporelle. Folles de chantier qui rêvent de stars, et folles d'opéra qui rêvent de cambouis. Folles de magasins et folles de randonnées de montagne équipées comme pour un défilé de mode sportive. Folles insaisissables et prévisibles, folles de liberté, d'envie et de caprice. Folles, je vous aime. Et tant pis pour les honteuses qui se gâchent la chance d'être une tante. Lopette, poil à gratter du monde, sainte tapiole, priez pour nous. Et faites que jamais, jamais nous ne nous emmerdions la vie comme nos voisins hétéros. Je promets, sainte tapiole, je promets de fleurir tous les jours ton autel de fleurs artificielles, bien sûr en velours rouge. Je déposerai au pied de ta sainte effigie le modèle XXL du moulage de l'acteur porno le mieux monté, sans l'avoir utilisé avant. Tous les jours, je parfumerai ta statue au numéro 5, number 5, et je te passerai la vidéo de Freddie Mercury. Je t'en supplie, ô sainte protectrice des travestis, des transsexuels, tantes et enculées du monde entier, protège-nous. Protège-nous de toute tentation hétérosexuelle, en acte et en pensée. Donne-nous nos hommes quotidiens et serre-nous au chaud entre tes mamelles siliconées.
C'était Hedwig and the Angry Inch. Donc si vous n'avez pas vu ce film encore, il faut absolument le voir. Et la chanson s'appelle Wig in the Box, Wig in a Box. Et du coup, pourquoi ça parle à nos imaginaires, c'est que voilà, c'est une femme trans qui a un peu le blues parce qu'elle vient de se faire larguer et qu'elle habite au fin fond des États-Unis dans un mobil-home. Et du coup, elle a juste envie de nous dire que dès qu'elle met sa perruque, tout d'un coup, elle devient autre chose que ce qu'elle est. Et c'est ça qui l'a fait le sentir bien. Du coup, voilà, j'espère que ces imaginaires-là, ils nous donnent plein de force aussi, quoi.
Chère Sainte Gwynas et chère Sainte Tapiole, pour cette année et aussi les prochaines, je voudrais qu'on sorte une bonne fois pour toutes de la survie, qu'on vive sans être obligé de se cacher, sans vivre dans la peur de la répression sociale ou étatique. Je voudrais également qu'on puisse se travestir comme bon nous semble, sortir des rôles genrés et pouvoir sortir dans la rue habillé comme ça nous chante.
Chère Sainte Gwynas et chère Sainte Tapiole, pour cette année 2014, je voudrais aussi la dissolution de toutes les armées. Et aussi que les flics se reconvertissent en danseurs étoiles. Au moins, ils serviront à quelque chose.
Et maintenant, j'avais envie de parler d'imaginaire de lutte. Nos désirs font désordre. Un slogan du phare dans les années 70. Un beau slogan. Un slogan assez prétentieux aussi. Quels sont-ils, nos désirs ? Et comment se donner, ensemble, la puissance du désordre ? Mais encore faut-il se projeter un minimum dans des perspectives révolutionnaires. Pour ma part, j'ai besoin d'alliances plus fortes dans les luttes, avec moins de cloisonnement et plus de croisements encore. J'aimerais que tous les, on va dire, anarchistes, communistes, autonomes, radicaux, comprennent et agissent contre les mécanismes du sexisme, du racisme et de l'homophobie dans cette société et qui traversent inéluctablement aussi nos groupes. Sans ça, c'est continuer de trimballer avec nous des morales réactionnaires, des radicalités, pas seulement sur un front. Nos bandes, j'ai envie de les voir protéiformes, des mélanges hasardés de formes qui jouent avec les féminités et les masculinités, des couleurs criardes et vulgaires. On ne marche pas en rang, on se déplace en étoile, avec comme force la multiplicité de nos différences. Des bandes qui prennent des risques, qui joue avec l'illégalisme, même si c'est pas toujours tout rose. Alors, pour parler de ça, j'ai choisi deux textes qui parlent de la place des transpédéguines dans les mouvements révolutionnaires. Le premier, qu'on va écouter maintenant, est un manifeste qui a été écrit par Pedro Lemembel, un PD chilien qui a vécu la dictature de Pinochet et qui était impliqué dans les luttes. Ce manifeste se nomme « Je parle pour ma différence ». Et il s'adresse, le « vous » qu'on va entendre dans le texte, il s'adresse ce texte aux révolutionnaires qui n'imaginent pas que des PD puissent faire partie de la lutte et qui privent donc de, entre guillemets, « liberté » un sacré paquet de personnes.
Je ne suis pas Pasolini demandant des explications.
Je ne suis pas Ginsberg expulsé de Cuba.
Je ne suis pas un PD déguisé en poète. Je n'ai pas besoin de déguisement.
Voici mon visage. Je parle pour ma différence. Je défends ce que je suis. Et je ne suis pas tellement bizarre.
L'injustice me saoule. Et je me méfie de cette cueca, cette valse démocratique.
Mais ne me parlez pas du prolétariat, parce qu'être pauvre, les PD est encore pire. Il faut être plein d'âpreté pour le supporter.
C'est offrir un rodéo au petit mal du coin.
C'est un père qui te hait parce que le fils fait des rondes jambes.
C'est avoir une mère, aux mains tailladées par le chlore, vieillie par le ménage, te berçant quand tu es malade, suite à de mauvaises habitudes, par malchance.
Comme la dictature.
Pire que la dictature.
Pire que la dictature.
Parce que la dictature passe.
Et arrive la démocratie.
Et juste derrière le socialisme.
Et alors ?
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 Que feront-ils de nous, camarades ?
Est-ce qu'ils nous entortilleront dans des ballots à destination d'un hôpital cubain pour sidéens ?
Ils nous mettront dans quelques trains de nulle part, comme dans le bateau du dictateur Ibanez, où nous apprîmes à nager.
Mais personne n'arrive à sur la côte.
C'est pourquoi Valparaiso éteignit ses lumières rouges. C'est pourquoi les guinguettes offrirent une larme noire aux gais poissons arc-en-ciel dévorés par les crabes. Cette année que la Commission des droits de l'homme ne commémore pas.
C'est pourquoi, camarades, je vous le demande, le train sibérien de la propagande réactionnaire existe-t-il encore ?
Ce train qui passe dans vos pupilles quand ma voix se fait trop douce.
Et vous ?
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 Que ferez-vous de ce souvenir d'enfance quand on se branlait et tout le reste pendant les vacances à Cartagena ?
Le futur sera-t-il en noir et blanc ? Le temps en nuit et jour ouvrable, sans ambiguïté ?
N'y aura-t-il pas un PD dans un coin quelconque, déséquilibrant le futur de votre homme nouveau ?
Vont-ils nous laisser broder d'oiseaux les drapeaux de la libre patrie ?
Le fusil, je vous le laisse à vous, qui avez le sang-froid. Et ce n'est pas de la peur. La peur m'a quitté, en arrêtant les couteaux dans les caves à sexe où j'allais.
Et ne vous sentez pas agressé si je vous parle de ces choses et si je vous regarde le paquet. Je ne suis pas hypocrite. Les nichons d'une femme ne vous font peut-être pas baisser les yeux ?
Vous ne croyez pas que seule dans la Sierra, une petite idée allait nous venir à l'esprit ?
Quoi qu'ensuite vous me détestiez de corrompre votre morale révolutionnaire, avez-vous peur que la vie s'homosexualise ?
Je ne parle pas de la mettre et de la retirer, et de la retirer et de la mettre uniquement. Je parle de tendresse, camarade.
Vous ne savez pas combien il est difficile de rencontrer l'amour dans ces conditions ?
Je parle de tendresse, camarade.
Vous ne savez pas ce que c'est que de porter cette lèpre. Les gens gardent leur distance, les gens comprennent et disent.
Il est pédé, mais il écrit bien.
Il est pédé, mais c'est un bon ami.
Super sympa.
Je ne suis pas sympa. J'accepte le monde sans lui demander cette sympathie. Mais peu importe, il rit. J'ai des cicatrices de rire dans le dos.
Vous croyez que je pense avec les fesses et qu'au premier cuisinage par le renseignement, j'étais prêt à tout lâcher. Vous ne savez pas que la virilité, je ne l'ai jamais apprise dans les casernes.
La virilité, c'est la nuit qui me l'a enseignée derrière un pilier. Cette virilité dont vous vous vantez, on vous l'a mise dans le régiment. Un bidas assassin de ceux qui sont encore au pouvoir.
Ma virilité, je ne l'ai pas reçue du parti, parce qu'on m'a rejeté avec de petits rires bien des fois.
Ma virilité, je l'ai apprise en participant à la dureté de ces années, et on s'est moqué de ma voix efféminée criant « Y'a caillou, Pinochet !»
Il va tomber, Pinochet.
Et même si vous criez comme un homme, vous n'avez pas réussi à le faire partir.
Ma virilité, ce fut le bâillon, Ce ne fut pas d'aller au stade et de me battre à coups de poing pour le club du Colo-Colo.
Le football est une autre forme d'homosexualité cachée, comme la boxe, la politique et le vin.
Ma virilité fut d'avaler les moqueries, de bouffer de la rage pour ne pas tuer tout le monde.
Ma virilité, c'est de m'accepter différent. Être un lâche est beaucoup plus dur. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade.
Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade.
Et ça, c'est ma vengeance.
Et ça, c'est ma vengeance. Et ça, c'est ma vengeance.
Ma virilité attend patiemment que les machos se fassent vieux. Parce qu'à ce niveau du parti, la gauche trafique son cul flétri au Parlement.
Ma virilité fut difficile. C'est pourquoi je ne monte pas dans ce train sans savoir où il va.
Je ne vais pas changer pour le marxisme, qui m'a rejeté tellement de fois. Je n'ai pas besoin de changer. Je suis plus subversif que vous. Je ne vais pas changer uniquement parce que les pauvres et les riches.
Y'a d'autres avec ça.
Ni parce que le capitalisme est injuste.
À New York, les PD s'embrassent dans la rue.
Et cet aspect, je vous le laisse à vous qui tenez tellement à ce que la révolution ne soit pas complètement pourrie. À vous, je vous adresse ce message.
Et ce n'est pas pour moi, je suis vieux. Et votre utopie est pour les générations futures. Il y a tant d'enfants qui vont naître avec une petite aile brisée.
Et je veux qu'ils volent, camarades.
Que votre révolution leur donne un morceau de ciel rouge pour qu'ils puissent voler.
Je veux qu'ils volent, camarades.
Et ce n'est pas pour moi, je suis vieux. Et votre utopie est pour les générations futures. Il y a tant d'enfants qui vont naître avec une petite aile brisée.
Que votre révolution leur donne un morceau de ciel rouge.
Voilà, alors on a des frissons un peu partout. Mais pour continuer, donc le deuxième texte que j'ai choisi, c'est une petite nouvelle sur l'autonomie italienne des années 70. Donc c'est un livre qui a été écrit par Paolo Pozzi en 82. Et il l'a écrit dans des conditions un peu spéciales parce qu'il était en prison à ce moment-là, en QHS, quartier de haute sécurité. Et donc, il a fait un récit de mémoire des événements autour de 77. Et donc, la nouvelle qu'on va lire s'appelle Tullio. Et elle se passe à Milan, lors d'une assemblée générale du journal Rosso, un journal de lutte. Et c'est un homo ainsi que des féministes qui s'adressent à l'assemblée. Et pour finir de préciser, pour que vous compreniez bien le texte, le narrateur est l'auteur du livre. Voilà.
Parce que, depuis toutes ces années que nous faisons de la politique ensemble, je ne vous l'ai jamais dit. Et même, je vous l'ai caché. Je suis homosexuel. Mais pas un de ces homos qui aiment aussi les femmes. Moi, je n'aime que les hommes.
Silence de mort via discipline. Une réunion spéciale de la rédaction de Rosso avait été convoquée, consacrée au mouvement de libération féminine et à tous les problèmes qui, à Rosso, occupent les pages titrées, entre guillemets, tout le reste.
Eh, ne restez pas là à me regarder comme deux ronds de flanc. Je me suis rendu compte que j'étais homo quand tous les mecs se sentent attirés par les femmes. J'avais 16 ans. Dans le bled où j'étais, à l'embouchure du pot, c'était inadmissible. Alors j'ai dû me cacher. Figurez-vous que dans mon village, quand j'avais 20 ans, j'ai même fait semblant de me fiancer avec une belle fille, alors que quand elle m'enlaçait, j'avais la nausée. Et puis, heureusement, je me suis tiré de chez moi, et j'ai fait la fac dans une grande ville. Mais j'avais tellement intériorisé le fait de me cacher que je n'ai jamais eu le courage de parler à qui que ce soit de mon homosexualité. Je me suis toujours caché. Et quand je suis allé avec d'autres mecs, je l'ai fait comme si je commettais un péché. Mais maintenant, j'ai compris un tas de choses, notamment en faisant de la politique avec vous. Et je me suis demandé quel sens ça avait de taire ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord la révolution communiste et ensuite je parle de moi?
Le silence persiste. Personne n'ose moufter.
Et arrêtez de me regarder comme ça, sinon je me casse.
Le brouhaha reprend dans l'assemblée. Mais personne n'entre dans le vif du sujet.
Moi, je crois, selon Sariana, que Tullio a posé un problème fondamental, qui est celui de l'affirmation de sa vie et de ses besoins, à partir desquels seulement on peut penser à la révolution. Quelle révolution avons-nous en tête? Le schéma que nous avons hérité du PCI et des autres formations? Une révolution en deux temps? D'abord on prend le palais d'hiver et ensuite on change les rapports entre nous, les hommes, entre hommes et femmes, parents et enfants, entre les époux. Mais nous, nous disons que soit la révolution est totale, soit elle n'est pas. Quel sens est-ce que ça a pour nous de lutter si dans ce schéma de libération, nous restons dominés par l'homme en tant qu'instrument de plaisir, que femme de ménage, que génitrice d'enfants ? C'est pourquoi nous disons que les hommes, même lorsque ce sont des camarades, ce sont des patrons vis-à-vis des femmes.
Un bordel énorme éclate. Je le savais. Depuis des mois, dans le collectif de la Siemens, Ariana et les autres nanas balancent ce genre de déclaration en suscitant une telle esclandre que Vito est le seul, en tant que chef reconnu de toute la gauche révolutionnaire de l'usine, à pouvoir calmer le jeu. Ariana et les autres filles... Alors, non, je vois mal. Pardon. Enfin politicien qu'il est, Vito a tout de suite négocié avec Ariana et les autres filles les limites possibles de la cohabitation politique. Et, après avoir reçu des femmes l'assurance qu'elles n'abandonneraient en aucun cas leur militance à l'intérieur du collectif ouvrier, il a laissé libre cours à tout type de discussion. Vito était incroyable. Il pigeait des trucs qu'on n'aurait jamais cru possible de la part d'un technicien d'usine, de surcroît d'origine méridionale. En ce qui me concerne, j'ai supplié Ariana d'y aller mollo sur l'argument des camarades masculins, qui sont tous des patrons et des fachos. Aussi bien pour éviter les baffes aux réunions que parce que traiter de facho un camarade est tellement énorme que ça peut lui brouiller toute compréhension du problème.
Vous nous cassez les couilles, intervient Mimo furieux avec ses discours de merde. Alors maintenant, ton chef d'atelier va être mieux que moi. C'est les chefs qui sont des fachos, pas nous. Nous, on veut pas commander les femmes, mais nous devons faire la révolution ensemble. Sinon, on fait comme les groupes féministes bourgeois de Via Cherubini. Plein de bonnes femmes bourrées de fric qui n'ont jamais vu le travail en usine et qui parlent de révolution. Ces groupes féministes qui soutiennent la guerre de la femme contre l'homme. Vous ne comprenez vraiment que dalle, intervient Rosanna de la Siemens. Face aux mecs, nous les femmes, nous sommes toutes exploitées. Je le suis exactement comme l'est la femme d'Agnelli.
Le vacarme explose dans la salle. Le problème a été posé de la pire manière et en plus dans une réunion à majorité ouvrière.
Les femmes ont raison, dit Tullio. Le problème, c'est que dans la révolution que nous avons en tête, l'individu est ouvrier, mâle, père de famille, mais surtout absolument hétérosexuel. Cette notion du révolutionnaire n'est plus adaptée à ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Vous ne voyez pas qu'à l'usine, tout le monde se bat ? Et avant tout, les employés, et vous n'avez pas vu que les plus beaux combats cette année, c'est les publicitaires qui les ont menés ?
Bordel infernal.
Mais nous, ce qu'on veut savoir, si Miss Giuseppe de chez Alpha, c'est si, après tous ces discours, vous menez le combat avec nous ou si vous allez briser les grèves. Nous, les femmes de l'autonomie à la Siemens, reprend Ariana, nous avons formé un groupe uniquement de femmes qui s'intéressent aux problèmes féminins à l'usine, comme les crèches, les rapports avec les chefs et bien d'autres problèmes. On se retrouve pour parler entre nous, mais on continue aussi à faire de la politique dans le collectif avec les hommes. En bref, on milite en double. Pour l'instant, on pense qu'on ne peut pas faire la révolution sans les hommes.
Merci, ironise une bonne partie de l'Assemblée.
Mais personne ne me répond à moi. Je ne suis pas une femme, moi. Je suis un homosexuel, une pédale, comme vous dites. Vous savez qu'il y a un paquet de pédales à l'usine ? Vous ne vous en apercevez pas, mais c'est comme ça. Par exemple, aux réunions du Fiori, le phare italien, à Milan, il y a aussi des ouvriers de la Siemens. Oui, nous tous, pédales ouvriers, nous voulons savoir si nous pouvons quand même rester dans les collectifs et à l'intérieur de Rosso à toutes fins utiles. En plus, nous voulons une page dans la revue comme les femmes.
Dans mon coin, je songeais à tout le mal qu'on s'était donné pour faire avaler le féminisme et la drogue aux assemblées autonomes et aux ex de Potere Operario, et à celui qu'on allait avoir maintenant pour leur faire gober aussi l'homosexualité. Après la réunion orageuse de Via Disciplini, l'assemblée m'a chargé de repérer toute la dogue des groupes homo et de l'apporter dans les collectifs, parce qu'ils devaient décider s'ils pouvaient confier ou pas au mouvement homosexuel la page de Rosso réclamée. Au bout de 2 mois de discussion, les collectifs ont donné leur accord à l'autogestion homosexuelle d'une page de la revue. J'ai si chaleureusement soutenu cette initiative que certains ont commencé à faire courir le bruit que j'étais moi aussi homo. Ces potins ne me déplaisaient pas et vont nourrir la fable de mon histoire avec Ariana. Bref, Tullio est ensuite entré comme rédacteur fixe à Rosso, et pas seulement de la page homo. Et moi, je me suis gagné une réputation de pédale aux réunions nationales de l'autonomie. Ça a été aussi un beau bordel à ce sujet avec les autonomes romains, qui ne voulaient absolument rien savoir de cette histoire. Finalement, vu que nous, 2000 ans, on ne lâchait pas le morceau, les autonomes romains ont décidé de diffuser Rosso après avoir arraché la page des pédales. Tullio m'a offert un magnifique collier de petites pierres colorées qui vient du Mexique. Quand je vais aux réunions nationales de Rosso, les autonomes romains me mettent la main au cul et se marrent en clignant de l'œil. Alors je voulais, comme on a un petit peu de temps, lire une autre page de la nouvelle suivante. C'est un petit extrait, mais ça permet de situer un peu le contexte féministe à cette époque italienne. Donc, surtout que les femmes, en majorité chez Siemens, se sont mises à lutter sous des formes qui balaient tout mode traditionnel de faire de la politique. Ce sont des femmes différentes de celles des combats précédents. Et non seulement Carlo, mais Vito aussi ont du mal à comprendre et à soutenir les arguments. Ariana, Rosanna, Rita et les dernières embauchées tiennent un discours sur le pouvoir excessif de l'homme, qu'il soit dirigeant, chef d'atelier ou camarade ouvrier. Et Vito et Carlo, cette histoire que l'homme, Danieli aux derniers ouvriers, est en tout cas toujours un patron, ça leur agite les neurones, et pas qu'un peu. Résultat, maintenant, au siège des collectifs, un ex-magasin du quartier Fiera, les débats sont féroces. Quand les gueulantes atteignent des sommets, les locataires de l'étage au-dessus donnent des coups de balai par terre. Une fois finies les réunions du collectif, on passe aux discussions entre nous, les hommes, qui nous divisons entre philo-féministes ou non. Naturellement, les attaques vont bon train, surtout contre les hommes féministes, accusés par les autres de l'être pour mieux séduire les nanas. Mais dans le collectif de Siemens, le plus grand bordel idéologique s'est produit quand, à la suite de la scission de l'Otta Continua, un groupe d'homos s'est pointé. Alors, Rossano, dit Soleil Rouge, s'est mis à gueuler. « Bon Dieu, tout mais pas les pédés
il faut que je présente la chanson. Alors, cette chanson, c'était une chanson du groupe Ekova. Et en fait, bon, je connaissais pas beaucoup le groupe, mais j'avais envie de mettre cette chanson parce qu'elle est dans un langage imaginaire au cas où vous auriez essayé de comprendre les choses de la chanson.
C'est une blague.
C'est un langage imaginaire, voilà.
Chère Sainte Gwynas et chère Sainte Tapiole, pour la nouvelle année, j'aimerais qu'on puisse chourer librement, parce que les visuels, c'est chiant. Et puis aussi, qu'il n'y ait plus de caméras de vidéosurveillance, parce que Big Brother aurait décidé de partir en vacances.
Chère Sainte Gwynas et chère Sainte Tapiole, pour cette année 2014, je voudrais que la frite soit reconnue d'utilité publique et rendue gratuite, et que ma maison puisse voler au gré des vents qui nous portent. Qu'il y ait des feux d'artifice pendant une nuit entière parce que c'est beau, et puis que le monde entier devienne violet quelque temps pour faire plaisir à une Gwyn qui se reconnaîtra, mais pas trop longtemps quand même parce que j'ai peur d'avoir mal aux yeux à force. Alors, maintenant, on va se raconter un peu des petites nouvelles qui sont tirées d'un livre de Ursula Le Guin qui s'appelle L'anniversaire du monde.
Ah, tu veux dire Ursula Le Guin?
Voilà. Et du coup, ce livre. Alors, elle a écrit plein de romans de science-fiction. Et là, les nouvelles, elles se passent sur des mondes qui sont regroupés dans un système qui s'appelle l'écumène. Ils ont décidé de se rassembler ensemble. C'est ce qu'elle appelle un groupement de mondes non directifs qui fait circuler les informations. Et du coup, il y aurait un peuple de base, là, les Éniens, qui serait à l'origine de toutes les personnes qui habitent dans les autres mondes. Mais bon, ça a donné vraiment des formes complètement différentes de société. Et de personnes. Et du coup, la première nouvelle, elle s'appelle Puberté en Caraïde, je crois.
C'est parti. Les maisons familiales de Rer sont construites autour d'un grand espace central. Chaque étage a une galerie intérieure qui en fait le tour, et nous appelons cet étage entier, avec ses chambres et ses autres pièces, un balcon. Ma famille occupait tout le deuxième balcon d'Ereb Tagué. Nous étions très nombreux. Ma grand-mère avait eu 4 enfants qui avaient tous eu des enfants, de sorte que j'avais une foule de cousins en plus d'un frère utérin plus jeune et d'un autre plus âgé. Les Tad deviennent toujours femmes dans le Kema et tombent toujours enceintes, comme je l'avais entendu dire par les voisins, qui étaient envieux, désapprobateurs ou admiratifs selon les cas. Et ils ne font jamais vœu de Kema, ajoutait toujours quelqu'un. Le premier propos était exagéré, mais le second était exact. Aucun de nous n'avait de père. Pendant des années, je n'ai pas su qui était mon géniteur, et je ne m'en suis jamais préoccupé. Avec leur fort esprit de clan, les Tad préféraient ne pas introduire de personnes extérieures, même des membres de notre propre foyer, dans la famille. Si des jeunes gens tombaient amoureux et commençaient à parler de conserver le Kema, grand-mère et les autres mères devenaient impitoyables. Faire vœu de Kema, pour qui vous prenez-vous? Des nobles? Pour je ne sais quelle espèce de personnage extraordinaire? La maison de Kema était bien assez bonne pour moi, et elle est assez bonne pour vous, disaient les mères à leurs enfants en peine d'amour. Et elles les envoyaient loin, à la campagne, dans le vieux domaine d'Ereb, pour y biner les bratis, jusqu'à ce qu'ils aient surmonté leur chagrin d'amour. C'est ainsi que lorsque j'étais enfant, je faisais partie d'un troupeau, d'un essaim, entrant et sortant de ce labyrinthe de pièces, montant et descendant les escaliers en courant, travaillant ensemble, étudiant ensemble, nous occupant des bébés à notre manière, et terrorisant, par notre nombre et notre vacarme, les plus calmes parmi nos compagnons de foyer. Pour autant que je sache, nous ne faisions vraiment rien de mal. Nos escapades restaient bien en deçà des règles et des limites de notre antique et paisible foyer. des règles que nous ne considérions pas comme des contraintes, mais comme des protections, des murs qui nous gardaient à l'abri. La seule fois où nous fûmes punis, ce fut lorsque mon cousin Céter décida que ce serait amusant d'attacher à la balustrade du balcon au deuxième étage une longue corde que nous avions trouvée, d'y faire un gros nœud et de s'y accrocher et de sauter. « J'y vais en premier, » dit Céter. Encore une tentative malheureuse de voler dans les airs. On répara la balustrade et la jambe cassée de Céter, et le reste d'entre nous fut obligé de nettoyer les toilettes, toutes les toilettes du foyer, pendant un mois. Je pense que les autres occupants du foyer avaient décidé qu'il était temps que les jeunes Tad observent une certaine discipline. Bien que je ne sache vraiment pas comment j'étais lorsque j'étais enfant, je pense que si j'avais eu le choix, j'aurais sans doute été moins brillant que mes camarades, quoique tout aussi remuant. J'adorais écouter la radio, pendant que les autres faisaient leur chahut, autour des balcons, ou dans le hall central en hiver, ou dans les rues et les jardins en été. Je restais blotti pendant des heures derrière le lit, dans la chambre de ma mère, faisant marcher sa vieille radio en bois de CRM, si bas que mes frères ne pouvaient savoir que j'étais là. J'écoutais n'importe quoi, des textes en vers, des pièces, des contes de foyer, les nouvelles du palais, les statistiques des récoltes de grains et les bulletins météorologiques détaillés. Pendant tout un hiver, j'écoutais chaque jour une antique saga du front d'orage de Béring, pleine de goules, de neige, de traîtres perfides et de meurtres sanglants à la hache qui me hantaient la nuit au point que je ne pouvais pas dormir et que je rejoignais en rampant le lit de ma mère pour y trouver le réconfort. J'y retrouvais souvent mon jeune frère, dans une pénombre chaude et douce. Nous y dormions emmêlés et pelotonnés comme une nichée de pêcherelles. Ma mère, Girta de Taj M. Ereb, était une femme impatiente, chaleureuse et impartiale. Elle usait peu de son autorité sur ses trois enfants utérins, mais elle restait vigilante. Les Tad étaient tous des artisans qui travaillaient dans les échoppes et les maîtrises d'Ereb, avec peu ou pas d'argent à dépenser. Mais quand j'eus mes 10 ans, Guir m'offrait une radio toute neuve, et me dit devant les autres enfants, « Tu n'es pas obligé de la partager. » J'ai chéri cette radio pendant des années, et je l'ai finalement partagée avec mon propre enfant utérin. Les années passèrent ainsi, et c'est ainsi que je vécus dans la chaleur, l'épaisseur, la certitude d'une famille et d'un foyer enraciné dans la tradition, des brins de fil sur une navette perpétuellement en mouvement, et tissant la toile intemporelle de la coutume, de l'action, du travail et des rapports humains. Et, à cette distance, il m'est difficile de distinguer une année d'une autre, ou moi-même des autres enfants, jusqu'à ce que j'aie eu 14 ans. La raison pour laquelle la plupart des membres de mon foyer se souviendraient de cette année-là fut la grande fête connue sous le nom de la célébration du soma perpétuel de Dori. Ma mère parente Dori avait cessé d'entrer en Kema cet hiver-là. Certaines personnes ne faisaient rien de spécial dans une telle circonstance. D'autres se rendaient dans une citadelle pour y pratiquer des rites. Certains restaient dans la citadelle pendant des mois, ou même définitivement. Dori, qui n'avait guère de penchant pour le spirituel, avait déclaré « Si je ne peux plus avoir d'enfants, et si je ne peux plus faire l'amour, et s'il faut que je devienne vieille et que je meure, alors je peux au moins faire une grande fête. » J'ai déjà eu beaucoup de mal à raconter cette histoire dans une langue qui ne comporte pas de pronoms de soma, mais uniquement des pronoms de genre. Dans leur dernière année de Kema, lorsque l'équilibre hormonal se modifie, la plupart des gens deviennent généralement des hommes dans le Kema. Les Kema de Dori, ayant été mâles depuis plus d'un an, j'appellerai donc Dori Hill, même si, bien sûr, le fond de l'affaire est justement qu'il ne serait plus jamais ni il ni elle. Quoi qu'il en soit, sa fête fut extraordinaire. Il avait invité tous les habitants du foyer, ainsi que ceux des deux foyers des rêves voisins, et la fête dura 3 jours. L'hiver avait été long et le printemps tardif et froid. Les gens étaient prêts pour quelque chose de nouveau, quelque chose de chaud. Nous fîmes la cuisine pendant une semaine. Une réserve entière fut remplie de fûts de bière. De nombreuses personnes qui étaient en train de sortir du cycle de Kema ou qui l'avaient déjà quitté mais n'avaient rien fait de particulier vinrent se rejoindre à la cérémonie. C'est ce dont je me souviens le plus distinctement. Dans le grand hall central à 3 étages de notre foyer, à la lueur des feux, un cercle d'une 30aine de personnes, toutes d'âge mûr ou encore plus âgées, chantant et dansant au rythme des tambours. Elles étaient animées d'une énergie féroce, agitant leurs chevelures grises dénouées, frappant le sol de leurs pieds, comme si elles voulaient le défoncer. Les habitants les plus jeunes pardon. Leur voix était grave et forte, elles riaient. Les habitants plus jeunes qui les regardaient paraissaient pâles et indistincts. Je regardais les danseurs et je me demandais « Pourquoi sont-ils heureux? Ne sont-ils pas vieux? Pourquoi agissent-ils comme s'ils étaient libérés? Quel effet cela fait-il donc, le Kema ?» Non, je n'ai jamais beaucoup pensé au Kema jusqu'à là. À quoi cela m'aurait-il servi? Jusqu'à ce que nous atteignions la puberté, nous n'avons ni genre ni sexualité, et nos hormones ne nous posent aucun problème. Et dans un foyer urbain, nous ne voyons jamais d'adultes en face de Kema. Ils distribuent des baisers et s'en vont. Où est Maba? Dans la maison de Kema, mon ange. Maintenant, mange ta bouillie. Quand est-ce que Maba revient? Bientôt, mon ange. Et deux jours après, Maba revient, l'air assoupi et brillant, et frais et épuisé. C'est comme de prendre un bain, Maba? Oui, c'est un peu ça, mon ange. Qu'est-ce que tu as fait de beau pendant que j'étais partie?
Voilà, du coup, ça, c'était un peu c'était sur la planète Geten. Et c'était un peu un mode de société où les personnes, elles n'ont pas de sexe ni de genre la plupart du temps, sauf en, donc, du coup, dans leur phase de soma, sauf en phase de kema, où du coup, c'est le moment où...
Elles se reproduisent?
Où elles se reproduisent, mais pas que, en fait. Où, en fait, elles ont de la sexualité aussi. C'est le moment où elles sont dans une phase où elles ont un genre, mais qui change suivant les périodes. Après, bon, c'est toujours... c'est assez binaire quand même. Disons que dans leur période de sexualité, il y a toujours un truc de homme-femme, mais c'est pas que des rapports hétérosexuels. Mais du coup, c'est que à des phases données, quoi.
Ok, mais du coup, ça veut dire que ça peut être une phase de sexualité, mais c'est pas forcément la fonction, c'est pas forcément de se reproduire.
Non.
Ok,
ouais.
C'est intéressant.
Et là, je vais vous lire. Alors, ça, c'est sur la planète O. Et c'est encore une autre forme de société ou de manière d'avoir des fonctionnements et des relations sociales et tout ça. Et du coup, c'est une personne de la planète O qui parle. Elle s'appelle Eokad Are, de la ferme d'Inaman dans le village de Tag, sur le bassin sud-ouest de la rivière Budran, à Oket, sur la planète O. Les relations sexuelles, pour tous et sur tous les mondes, sont une affaire complexe. Mais personne ne semble avoir introduit dans le mariage autant de complexité que mon peuple. La chose nous paraît simple, bien sûr, et si naturelle qu'il est absurde de la décrire, comme s'il fallait décrire notre façon de marcher ou de respirer. Eh bien, vous savez, on se tient sur une jambe et on déplace l'autre vers l'avant. Vous laissez l'air pénétrer dans vos poumons et puis vous le laissez ressortir. Vous épousez un homme et une femme appartenant à l'autre moitié. Alors, c'est comme une moitié, mais il y a un E en plus, du coup, ça fait un... C'est comme un mot inventé, finalement. Moitié. Qu'est-ce qu'une moitié? M'a demandé un guéténien, du coup de la planète dont on a lu un passage tout à l'heure. Et je me suis rendu compte qu'il m'était plus facile de m'imaginer, ne sachant pas quel serait mon sexe le lendemain, comme le guéténien, que de m'imaginer, ne sachant pas si je suis une personne du matin ou une personne du soir. Une division si parfaite, si universelle de l'humanité, comment une société arrive-t-elle à s'en passer? Comment peut-on savoir qui est qui? Comment pratiquer ces dévotions sans avoir celui qui interroge et celui qui répond, celui qui verse et celui qui boit? Comment peut-on s'accoupler avec n'importe qui sans se soucier de l'inceste? Je dois reconnaître que dans le tréfonds obscur et poussiéreux de mon cerveau, je ne peux qu'être d'accord avec mon grand-oncle Gambat, qui disait: ces gens du hors-monde essayent tous de se tenir sur une seule jambe. Deux jambes, deux sexes, deux moitiés, c'est une simple question de bon sens. Une moitié est une moitié de population. Nous appelons nos deux moitiés le matin et le soir. Si votre mère est une femme du matin, vous êtes une personne du matin. Et tous les gens du matin sont, à certains égards, vos frères ou vos sœurs. Vous ne pouvez avoir de relations sexuelles, vous marier, avoir des enfants, qu'avec des gens du soir. Quand j'ai expliqué notre concept de l'inceste à une camarade étudiante sur un, elle a été choquée et elle m'a dit « Mais cela veut dire qu'on ne peut pas faire l'amour avec la moitié de la population ?» Et à mon tour choqué, j'ai répondu « Tu veux vraiment faire l'amour avec la moitié de la population ?» En fait, les moitiés ne sont pas une structure exceptionnelle au sein de l'écumène. Je me suis senti tout à fait à l'aise lors de conversations avec des personnes originaires de différentes sociétés bipartites. L'une d'elles, une femme Nadir de Lumna, sur Itch, a acquiescé et a éclaté de rire quand je lui ai parlé de l'opinion de mon grand-oncle. « Mais vous autres, Kyo, a-t-elle dit, c'est à quatre pattes que vous vous mariez.
Il y a peu de gens sur les autres mondes qui soient prêts à croire que notre forme de mariage fonctionne. Ils préfèrent penser que nous nous contentons de la subir. Ils oublient que les gens, tout en se plaignant qu'ils aimeraient avoir une vie simple, se complaisent dans la complexité. Si je me marie, par amour, par désir de stabilité, pour avoir des enfants, j'épouse 3 personnes. Je suis un homme du matin, j'épouse une femme du soir et un homme du soir. Et avec ces 2-là, j'ai des relations sexuelles. Et j'épouse une femme du matin avec qui je n'ai pas de relations sexuelles. Elle a des relations sexuelles avec l'homme du soir et la femme du soir. Ces mariages à 4 s'appellent un sedoretu. Il comprend 4 sous-mariages. Les 2 couples hétérosexuels s'appellent matin et soir, d'après la moitié de la femme. Et le couple homosexuel masculin s'appelle le mariage de la nuit. Et le couple homosexuel féminin, le mariage du jour. Voilà, une autre forme de société.
Wow.
Une autre façon de s'organiser.
Vous avez encore quelques souhaits et vœux ?
Eh ouais.
Eh oui.
Cher Sainte-Guinas, cher Sainte-Tapiole, je vous écris pour les vœux de la nouvelle année, car pour cette année 2014, je souhaiterais la fin des prisons, mur par mur, pierre par pierre, comme dit le proverbe. Et aussi que les psychiatres se déclarent fous, car plus on est de fous, plus on rit, et plus on est de folles, plus on rigole.
Cher Sainte Guinas et cher Sainte Tapiole, alors je vous écris encore et encore pour cette nouvelle année parce que je voudrais qu'on arrête de réfléchir à partir d'un système binaire sur tout ce qui existe, blanc, noir, gentil, méchant, homme, femme, blablabla, j'en passe. Parce que ça fait un bail hein, qu'on sait très bien que c'est faux de réfléchir comme ça. Alors je me dis que peut-être il serait temps de s'y mettre, de penser autrement.
L'agenda de la semaine.
De l'actualité de ce dimanche.
Le 28 juin, le 30 mars, le 3 décembre. Prochainement.
Ah, c'est déjà fini cette émission, c'est horrible. Bon, du coup, on passe à l'agenda. Alors, en premier lieu, on va parler d'un rassemblement à Lyon le 11 janvier pour le droit à l'avortement. Vendredi 20 décembre 2013, le gouvernement espagnol a présenté une loi visant à interdire le droit à l'avortement, sauf en cas de grave danger encouru par la femme pour sa vie ou sa santé physique ou psychologique. Le texte impose que le diagnostic soit émis par 2 médecins différents et étrangers à l'établissement pratiquant l'avortement, ou en cas de viol à la condition qu'elle ait déposé plainte, ou en cas de malformation fœtale sous réserve de 2 rapports médicaux, l'un sur la femme et l'autre sur le fœtus, qui confirmeront le motif d'interruption de grossesse. Donc cette loi rétablirait aussi l'obligation d'autorisation parentale pour l'avortement d'une mineure. Et le 10 décembre, le rapport Estrella sur la santé et les droits sexuels et reproductifs a été rejeté par les députées européennes suite notamment à du lobbying intensif de mouvements antiféministes et contre l'avortement. Dans ce contexte de remise en question du droit à disposer de nos corps et d'une diffusion massive de discours réactionnaires et antiféministes incluant des positions anti-avortement, anti-mariage homo, masculiniste, transphobe, etc., nous, des féministes, appelons à un rassemblement dans l'espace public le samedi 11 janvier à 14h30 devant la mairie de Villeurbanne, métro A, arrêt gratte-ciel. L'objectif est d'occuper l'espace ensemble, au même endroit, à la même heure, pour défendre le droit à disposer de nos corps, visibiliser nos analyses et positions politiques, et afficher notre solidarité avec les féministes de l'État espagnol. En tant qu'individu, collectif, organisation, association, venez avec votre acte et banderole, ainsi qu'avec vos gâteaux, thé et autres boissons chaudes à partager. Les partis politiques et les organisations politiques et syndicales sont invités à participer sans visibilité, pas de drapeau.
Un deuxième rendez-vous, c'est à Toulouse, le Maslot Fest, qui aura lieu du 10 au 13 janvier. Donc c'est des rencontres autour des modifications corporelles, et ces rencontres, elles seront principalement non mixtes, ouvertes donc aux transpédéguines, meufs et féministes, et le dernier jour sera mixte, et le tout sera à prix libre.
Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur internet, bien sûr.
Ouais, et puis je voudrais préciser quand même en soutien à la CAGE, qui est la Caisse d'autodéfense juridique de Toulouse.
Et on peut lancer un petit concours. Qu'est-ce que ça veut dire, masselotte?
Donc vous. Moi, pouvez... je sais.
Ah.
Vous voulez la réponse?
Oui.
Bah, c'est une partie d'une machine à tatouer.
Enfin, de la machine à tatouer.
Ah, et c'est, ah c'est, d'accord.
Voilà, moi aussi j'ai posé la question. Hein.
Voilà, le concours est fini.
Dommage,
j'ai gagné.
Et une dernière info.
Oui, tout à fait. Merci la technique de me le rappeler. Du coup, il y aura le 25 janvier un cabaret à Lyon. C'est trop bien. Alors, ce sera un cabaret de piraterie féministe qui jette enfin l'encre en janvier à Lyon. Il se déroulera le samedi 25 janvier 2014 à la TAV, 19 rue Roux-Soigna, métro Grange-Blanche. Moussaïon à l'abordage, venez participer, vos plus beaux trésors, vos performances, vos petites chansons, vos chorégraphies déjantées ou dégantées, je ne sais pas, vos légendes, vos textes, vos meilleurs flasques et tonneaux. Sortez tout cela des fonds de cale pour qu'ensemble se construise ce cabaret.
Et ça sera en nom mixité Meuf Queen Trans.
Ah oui, c'est bien de le dire.
Et ben ciao ciao, la semaine prochaine c'est Lilith Martine et les autres et on ne sait pas le thème et on se retrouve dans deux semaines.